12. Le cœur mari. Femme bonne qui a mauvais mari a bien souvent le cœur mari. Proverbe du XVIe siècle.
Si ces deux malappris sont venus relever le gant, d'autres leur emboîteront le pas, dit Dame de Maupronasse.
Ses compagnons abondèrent dans son sens. Quelles que fussent les réticences du duc à entrer dans le jeu, il ne pourrait empêcher d'autres tournoyeurs d'épauler son fils naturel et un chevalier attaché à l'autel de sa nouvelle épouse. On tomba aussi d'accord pour ne pas attendre les suivants sous l'arbre aux écus. Il s'agissait de ne pas montrer trop de nervosité à la veille du combat. Blancandin décida de gagner la tour de Lindinas. Dans un modeste oratoire du resplendissant, il devait prier et se préparer à sa première prise d'armes. Les chevaliers de Thèves et de Maubrenas choisirent de l'accompagner pour veiller à sa protection. D'autres, comme les sires de Froec et de Laudunet, préférèrent regagner le camp du dedans pour vérifier l'état de leur harnois et veiller à la bonne forme de leur destrier. Dilsin de Maginois, quant à lui, voulut au préalable remplir une démarche plus singulière. Il envisageait de faire un détour par le camp du dehors pour y saluer le baron de Maginois.
« N'est-ce pas inconsidéré ?» demanda Blancandin.
« Ne crains-tu pas que mon oncle te retienne ?»«
Père est sans doute fâché de me savoir dans le camp adverse, mais il me doit également sa gratitude. Après tout, je sauve l'honneur de la famille. Sur nos terres, les Vavasseurs et les Vilains sont très attachés à madame ma tante. Il me sera gré de sauvegarder leur attachement à notre maison. »
Le prince et ses chevaliers se rangèrent à cette opinion.
Et Chivard de Maginois avait de plus reçu une éducation aussi courtoise que sa sœur Odéarde, et il passait pour un seigneur mesuré et sage. Il était peu probable qu'il se comportât de façon brutale avec le fils indocile.
Blancandin conseilla malgré tout la prudence à son cousin et le recommanda au resplendissant. Dilsin fit appeler son cheval et s'apprêta à quitter la compagnie. En le voyant prêt à partir, Ivorin de Kéan se sentit déchiré par un dilemme. Fallait-il profiter de l'occasion pour gagner le camp du dehors et faire le rapport de sa piteuse aventure à la baronne de Brigor? Ou n'était-il pas préférable d'attendre le combat du lendemain et les prouesses que le bachelier était condamné à y accomplir? Qu'il s'illustrât assez pour gagner plusieurs chevaux et harnois devant toute la noblesse de Bromel, il y glanerait un prestige suffisant pour effacer sa défaite devant le chevalier de Vaumacel. Mais Ivorin ne parvenait pas à fonder des espoirs solides sur de si nébuleuses perspectives. En combattant parmi les champions du dedans, il craignait surtout de passer pour un traître aux yeux des dames qu'il servait. Dès lors, même les exploits les plus merveilleux leur seraient haïssables. S'il ne voulait pas perdre leur estime, il se voyait contraint d'expliquer sa situation avant de paraître en armes sur le pré. Le chevalier de Maginois prenait déjà congé de son cousin quand Ivorin le rejoignit et proposa de l'accompagner. Sire Dilsin parut heureux et même un peu soulagé de ne point se rendre seul au camp du dehors. Bientôt, les deux jeunes gens chevauchaient au pas de promenade vers le banc ducal et sa ville de toile colorée. La baronnie de Maginois étant voisine du comté de Belle-Estance, le neveu d'Odéarde en connaissait la noblesse. Il savait donc que la maison de Kéan dépendait d'un des vassaux du comte d'Odinel et avait conscience qu'Ivorin se retrouvait tout comme lui en rupture de ban.
« Êtes-vous dans le même cas que moi ? » demanda-t-il. « Allez-vous affronter la colère d'un père pour tenter de sauver ce que vous pourrez de son affection ?»
L'idée n'avait même pas effleuré Ivorin. Bien trop préoccupé par le plaidoyer qu'il devrait présenter à la baronne de Brégor et à la sublime Éluise. La possibilité que le sévère Herbin de Kéan fût venu à Lindinas dans les troupes du comte d'Odinel lui glaça l'échine. Il apprivoisa très vite cette angoisse. La présence de son père dans l'entourage du comte demeurait peu crédible. La maison de Kéan était pauvre, et Herbin avait placé l'essentiel de sa richesse dans l'équipement de son fils. Sans doute n'avait-il pas eu les moyens de paraître à une fête aussi dispendieuse que le tournoi de Lindinas.
« Je n'en aurai pas l'occasion, »
dit le bachelier en se remettant de son émotion. « Je pense que le seigneur de Prangeray
lui aura demandé de veiller sur ses terres en son absence pendant qu'il répondait à la convocation du comte. »
Dilsin de Maginois hocha la tête distraitement. Ce fils de baron n'accordait qu'un intérêt superficiel aux obligations d'un simple vavasseur. Quant à Ivorin, l'hypothèse qu'il venait de formuler ne le rassurait que de façon imparfaite. Il se sentait pétri d'incertitude et de culpabilité. Il revoyait la salle de la maison forte, dans le petit fief natal, avec son sol de terre battue et son âtre faisant office de cuisine. Siégeant sur un simple coffre, le strict herbin de Kéan y recevait ses vilains pour toucher, de la main à la main, le terrage en blé ou en légumes. Si le jeune chevalier de Kéan était vaincu une deuxième fois le lendemain, il ne perdrait pas seulement les moyens de sa chevalerie et l'amour de la sublime Héloïse, mais il ruinerait également le fruit d'une existence de gestion vétilleuse.
Puisque vous avez la chance d'échapper aux remontrances paternelles, poursuivait le chevalier de Maginois, qui donc allez-vous voir?
Le seigneur de Prangeray?
C'est mon père qui lui a prêté hommage et non moi, répondit Ivorin.
Je ne suis donc à lui que de façon indirecte.
Dans ce cas, vous n'êtes pas contraint de lui rendre des comptes.
À votre place, je m'en abstiendrai avant le tournoi.
En toute franchise, ce n'est pas à lui que je pensais rendre visite, mais à des dames.
Dilsin s'épanouit.
« Ah, l'heureux homme ! » s'écria-t-il. « J'ai bien mal interprété votre mine. Moi qui vous croyais empoisonné par des soucis aussi fâcheux que les miens. Comme j'aimerais être à votre place !»
Il lui envoya une claque complice sur l'épaule.
« Mais je me réjouis d'avoir un gaillard comme vous dans mon conroi !» ajouta-t-il. Vous combattrez en chevalier uniquement préoccupé par l'honneur et l'amour. Je ne doute pas que vous ferez merveille. »
Devisant de la sorte, ils arrivèrent à l'entrée du camp. Comme dans celui du dedans, l'enceinte n'y était formée que d'une simple lisse, une rambarde de bois habillée de toile. Elle matérialisait la limite du terrain inviolable, mais n'avait aucune vertu défensive. Elle était d'ailleurs ouverte en divers endroits et nullement gardée. Lors des combats, les spectateurs s'y accoudraient en nombre. Entourée par la barrière, s'étendait une agglomération aussi vaste qu'éphémère, bariolée de couleurs vives, de blasons et de bannières. Chaque grande maison y avait érigé son pavillon de canevas doublé de cardes, aux étoffes peintes ou damassées, autour duquel se serraient les tentes rondes des bannerets et des simples chevaliers. Des fumées montaient de cuisine en plein air et de deux forges de campagne. Cela dessinait des quartiers plus ou moins bien regroupés, autour desquels s'ouvraient des allées d'herbes foulées. Au cœur du campement s'élevaient les fêtes majestueux du pavillon ducal, tendu sur des mâts ornés de pommeaux dorés. Bien que les abords en fussent masqués par les cantonnements des maisons vassales, il en provenait une rumeur de foule qui impressionna les deux visiteurs.
« La dame soit louée !» se réjouit le chevalier de Maginois. Le duc a l'air si occupé que nous ne risquons guère de le croiser. Eh bien, ami Ivorin, je vais vous épargner la corvée qui m'attend. Il serait malséant de vous inviter à essuyer les réprimandes qui me sont destinées. Jouissez de vos galants entretiens. Ah ! Vos bonnes fortunes me consoleront un peu de mes misères.
Sur ces mots, il se renseigna auprès d'un sergent sur le campement des Maginois et partit dans la direction qu'on lui avait indiquée. Resté seul, le chevalier de Kéan demeura d'abord un peu interdit. Et scellé dans le banc qui eût dû être le sien par le cœur comme par loyauté vassalique, il ne sut plus que faire. Qui devait-il visiter d'abord? La baronne de Brégor ou Héloïse? La belle officiait-elle toujours en tant que dame de compagnie auprès de sa tante? Avait-elle rejoint son père puisque le seigneur de Prangeray accompagnait le comte de Dinel? Il suffisait sans doute de partir aux nouvelles, ainsi que venait de le faire le chevalier de Maginois. Mais Ivorin se sentait gagné par une surprenante timidité. Il avait l'impression que le simple fait de demander où logeait la baronne suffirait à publier l'humiliante nouvelle de sa capture par le chevalier de Vaumacel. Se dressant sur ses étriers, il passa en revue la forêt de pennons et de bannières qui flottait au-dessus du campement. Il espérait reconnaître le pont gardé de Brigord, ou les 5 merlettes de Prangeret, au milieu des armoiries bromaloises. Cependant, son trouble était tel qu'il ne vit qu'un foisonnement bariolé de meubles, d'émaux et de métaux héraldiques. Il se résolut donc à entrer plus loin dans le camp du dehors, en quête des 2 maisons nobles. Il le fit d'abord à cheval, avançant au pas au milieu de la foule. Mais la situation lui devint très vite insupportable. Tout le monde le dévisageait. Il aurait voulu se convaincre qu'il se faisait des idées, que la honte qu'il aurait sous peu à décevoir la baronne Hérambourg lui donnait l'impression d'être déjà un objet d'infamie. Mais il ne se trompait pas sur l'effet qu'il produisait. Son apparition faisait sensation. Page, écuyer, valet, servante et vivandière, tout le monde se retournait à son passage. On murmurait, on ouvrait des yeux ronds, on le montrait impoliment du doigt. Les oreilles cuisantes, il finit par mettre pied à terre pour poursuivre son exploration en tirant sa monture par la bride. Ce ne fut qu'au bout d'un moment qu'il comprit la cause réelle de cette effervescence. Dans son émoi, il avait complètement oublié qu'il portait 3 brins d'immortel au revers du surcot. Autour de lui, on s'étonnait tout simplement qu'un chevalier du dedans eut le toupet de flâner ainsi dans le camp du dehors. Cela ne le consola pas pour autant. Il se trouva sot. Il se reprocha d'avoir trop bu et de se lancer dans cette visite sans avoir l'esprit clair. Il craignit de se comporter en homme ivre devant les dames dont il voulait implorer la mansuétude. Il était étourdi par la splendeur des pavillons, le vacarme des conversations, la richesse des parures, le mélange des langues. Au dialecte bromalois se mêlait parfois l'accent guttural du Romagne ou les périodes chantantes du Tchoudalien. Hébété, il finit par marcher sans plus prêter attention au blason, luttant pour ne pas battre en retraite et ne pas quitter le camp du Cal. Comme il était perdu dans ses pensées, il se fit bousculer par un passant. Le choc fut assez rude. Par réflexe, il se retourna vers le malotru. L'inconnu avait eu la même réaction, et les 2 hommes se lorgnèrent de travers. L'indélicat avait une allure assez extravagante. La taille prise dans un pourpoint à crever galonné de brocart, et la jambe moulée dans un haut de chausse de soie, il avait la mine hargneuse, toute couturée de cicatrices, d'un franc gredin. La main posée sur le pommeau d'une épée de duel, il jeta un regard noir à Ivorin. Plus échauffé par cette œillade que par le choc, le bachelier faillit lui demander des excuses. Mais il aperçut à ce moment, sur la bannière flottant au mât d'une tente, le pont gardé de Brigord. De saisissement, le chevalier de Kéan perdit sa langue. Au bout d'un instant, le butor haussa une épaule en lui décochant un sourire méprisant. Il jeta quelques mots empreints de dédain, lâchés avec un accent tchoudalien si prononcé qu'Ivorin n'en saisit pas la teneur. Tout au plus crut-il saisir que le dernier mot aurait pu être « culot ». Il avait surtout été frappé par les incisives dorées de l'insolent. En un clin d'œil, celui-ci se fondit au milieu des badauds. Ravalant la fâcheuse impression d'avoir été insulté, Ivorin entraîna son cheval vers le pavillon aux armes de Brigord. Les portières en étaient déliées, mais le jeune homme ne parvenait pas à distinguer l'intérieur. Plusieurs chevaux de somme se trouvaient à l'arrêt devant l'entrée, débarrassés de leurs sacoches et de leurs coffres par des valets. Le seuil du pavillon se trouvait également gardé par plusieurs sergents d'armes, cuirassés de pied en cap. Le bachelier allait se faire annoncer, quand il fut interpellé par quelqu'un arrivant dans son dos.
« Tiens, tiens, mais quelle surprise! N'est-ce pas le chevalier de Kéan ?»
Se retournant, il découvrit un vieux beau vêtu d'un élégant surcot à manches en barbe d'écrevisse et chaussé d'interminables pigaches. Malgré ce costume coquet, l'individu sentait son vétéran. Sa démarche était décidée, son regard sans chaleur et une vieille balafre avait dessiné un bec de lièvre en travers de ses lèvres. Ivorin reconnut le sénéchal Ochilla, l'officier de confiance de la baronne. Soudain sans voix, il se contenta de lui adresser un salut un peu raide.
« Vous tombez à point, chevalier !»
se réjouit le sénéchal. Dame Erambourg revient tout juste du pavillon ducal. Elle se rafraîchit un peu et a fait dire qu'elle n'y était pour personne, mais je suis certain qu'elle fera une exception en votre faveur. Voilà déjà un moment qu'elle attend des nouvelles de votre entreprise. »
D'un geste plein d'une autorité polie, il invita Ivorin à l'accompagner dans le pavillon.
« J'avoue que je partage sa curiosité, »
ajouta-t-il en l'escortant. « J'ai eu l'occasion de croiser le fer avec vos macelles, et c'est un bretteur aussi redoutable que déloyal. Votre victoire sur pareil félon serait une prouesse digne de louange. »
Le jeune homme sentit la sueur perler à ses tempes. Il avait espéré vaguement, sans oser se l'avouer tout à fait, que la baronne aurait pu être retenue dans l'entourage du duc. Ainsi aurait-il pu se présenter à ses gens, les charger de transmettre ses hommages et l'assurance qu'il repasserait dès que possible, ce qui lui eût permis d'avoir à peu près rempli ses obligations, tout en remettant à plus tard l'aveu de son échec. Mais la baronne était là. Dans un instant, il paraîtrait devant elle. Il allait falloir s'humilier. Et il se sentait plus penaud à chaque pas. Mais lorsqu'il franchit le seuil de la tente, sa déconvenue fut complète. Il régnait un certain désordre dans la chambre de toile, en partie tendue de tapisserie. Sur des tapis à peine déroulés, on venait de monter un lit et son dais d'épervier. Des coffres ouverts bâillaient sur des trésors de linge, de dinanderie et d'argenterie. Le plateau d'une table et ses tréteaux sculptés étaient appuyés contre le mât de la tente en attendant d'être rangés. Ivorin vit à peine ce fouillis et les serviteurs qui se hâtaient d'y mettre bon ordre. Ce fut tout juste s'il entrevit la charmante Oudée, la plus jeune des filles de compagnie de la baronne, qu'il accueillit pourtant avec un joli sourire. Il n'y découvrit nullement la dame de Brégor qui n'était point visible, mais il fut pétrifié en se retrouvant soudain en présence de la sublime Héloïse. En un instant, la présence de la belle avait effacé le reste du monde. Elle était telle qu'il l'avait rêvée pendant ses longs jours de quête et d'errance, et elle lui parut aussi radicalement autre. Elle se manifestait plus tangible, plus ensorcelante, plus désirable que dans toutes ses amoureuses songeries. La délicatesse de son visage éblouit le bachelier. Un gorget de gaz soulignait l'élégance de son cou, tandis qu'un bandier brodé de fil d'or, en soulignant l'étroitesse de sa taille, rehaussait sa chaste poitrine. Mais cette apparition envoûtante, après avoir frappé au cœur le chevalier de Kéan, le lui fendit de la plus cruelle des manières, car tout dans l'expression d'Héloïse trahissait un profond chagrin. Les épaules affaissées, abattues plus qu'assises sur une luxueuse bancelle, l'icône avait des accablements de martyr. Un petit livre échappait à ses mains lasses et glissait dans le plissé de sa robe. Sa tête exquise penchait comme trop lourde à porter. Par-dessus tout, le teint livide et les yeux rougis de la belle atterrèrent le visiteur. Le regard d'Héloïse passa sur lui sans qu'il naquît la moindre lueur. Ivorin se sentit crucifié. Il en acquit l'immédiate, la douloureuse certitude. Elle savait déjà tout de son échec et de sa trahison. À Belcastel, elle avait cru élire un champion. La défaite du bachelier face au sire de Vaumacel et son ralliement au camp du dedans avaient fait voler en éclats son amour avec ses illusions. Elle s'était leurrée. Elle le haïssait d'avoir été à ce point trompée. Et le plus horrible était de découvrir à quel point cela la faisait souffrir. Ivorin en fut anéanti. Il aurait voulu s'enfuir, non, disparaître sous terre. Il décida de se faire tuer le lendemain sur le pré, ou s'il échappait à ce destin miséricordieux, de s'ensevelir à jamais dans un cloître. Pendant qu'il se figeait, bouleversé, le sénéchal avait fait signe à la petite Oudée. Celle-ci s'était éclipsée derrière un rideau. Au bout d'un instant qui passa telle une éternité de désespoir pour le jeune homme, la baronne surgit de la loge voisine, le visage éclairé par un gracieux sourire.
« Ah, chevalier !» s'écria-t-elle en lui tendant la main.
Quel bon vent vous amène ?
Ivorin la fit un peu attendre, aussi interloqué et gourd qu'à lourdeau. Puis les bonnes manières lui revinrent, et dans un état second, il saisit ses doigts menus et fit mine de poser les lèvres sur la grosse bague sigillaire qui les ornait. Il souffrit de rendre cet hommage devant Héloïse, bien qu'il y fût contraint par le rang de la baronne et par les règles de la courtoisie. Quoiqu'elle eût l'âge d'être sa mère, Hérambourg de Brigord restait l'une des dames les plus séduisantes de la cour. Le bachelier se sentit lamentable d'avoir ainsi baisé la main de la tante sans avoir adressé un mot à la nièce.
« Eh bien, Héloïse, » s'étonnait la baronne, « vous ne saluez point notre ami le chevalier de Kéan ?»
La jeune fille posa ses yeux noyés sur Ivorin, et ce simple regard lui fut un supplice. Elle s'apprêta à dire quelque chose, mais son menton se mit à frissonner, et elle ne put qu'étouffer un sanglot.
« Ah, madame !» s'écria le jeune homme. « Je vous supplie de me pardonner. Jamais je n'aurais cru me rendre si détestable. »«
Que racontez-vous donc ?» le reprit Dame Hérambourg. « Je vous assure qu'il n'y a rien de détestable chez vous, chevalier, à part peut-être ces fleurs impertinentes piquées à votre col.
Pardonnez les pleurnicheries de la demoiselle de Prangeray. Elle est dans un mauvais jour. Cela lui passera. Venons-en plutôt à l'objet de votre visite. »
Prenant familièrement le bachelier par le bras, elle le mena jusqu'à un coffre où elle l'invita à prendre place. Elle s'assit ensuite sur le lit, étalant autour d'elle sa robe en corolle avec une grâce étudiée. Le sénéchal Ochilla avait dit vrai. La visite d'Ivorin l'avait surprise alors qu'elle se rafraîchissait. Elle accueillait l'hôte imprévu, les cheveux lâchés, comme une simple jeune fille. Chez la plupart des femmes de son âge, pareil laisser-aller eût paru négligé et même inconvenant. Mais les quelques mèches blanches de la baronne, mêlées à ses boucles blondes, la paraît d'un nimbe presque diaphane. Cette chevelure d'or pâle adoucissait la beauté un peu altière de sa physionomie.
« Quel plaisir de vous revoir, chevalier !»
complimentait-elle. « Je vous ai connu meilleure mine, mais pour le reste, vous m'avez toujours l'air fringant comme devant.
N'est-il pas un peu singulier de nous retrouver ainsi dans ce campement rustique, sur les terres du comte Anguzel ? Quelle étrange aventure ! Oh, mais à propos d'aventure, contez-nous donc les vôtres. »
Ivorin resta quoi ? D'évidence, à en juger par les larmes d'Héloïse, la baronne connaissait déjà tout de son échec. Se moquait-elle de lui ?
Ou s'était-elle fait une raison et, flattée malgré tout qu'un chevalier deux fois plus jeune qu'elle eût pris fait et cause pour sa querelle, avait-elle décidé de se montrer clémente ?
« Dame, bredouilla-t-il, vous êtes trop bonne de vous intéresser à mes tribulations. Je vous dirai en confidence que ma bonté n'est pas dépourvue d'intérêt. Ne formons-nous pas une ligue, vous et moi ? Allons, cessez de nous faire languir. Qu'en est-il de nos affaires ?»
Le jeune homme tomba des nues. Son interlocutrice paraissait sincère. En fait, elle commençait même à montrer des signes d'impatience. Ivorin sentit qu'il perdait encore plus pied.
« N'êtes-vous donc pas au courant ? » s'étrangla-t-il.
« Je suis averti de bien des choses, dont quantité de commérages tristement futiles. Mais je ne suis point devineresse, chevalier. Allez-vous enfin en venir au fait ? Avez-vous retrouvé la trace du chevalier de Vaumacel ? Mais si personne ne vous a rapporté que... »
S'interrompant, il se tourna avec effarement vers la demoiselle de Prangeray.
« Dans ce cas, madame, quel est le malheur qui vous désole si fort ?»«
Oh, c'est une toute autre affaire, chevalier, »
répondit faiblement la jeune fille.
« Comme vous avez l'âme serviable, beau doux ami, » salua la baronne. « Mais ne vous alarmez pas trop pour Héloïse, ce sont des larmes d'émotion plus que de tristesse qu'elle a versées, n'est-ce pas ma chère ?»«
D'une émotion bien violente, ma tante.
C'est toujours un peu le cas dans de telles circonstances. Croyez-en mon expérience, ma tendre enfant.
vous saurez rapidement dominer vos sentiments et les mettre au service de vos desseins. »
S'adressant à nouveau à Ivorin, tout en agitant légèrement la main, la dame Erambourg précisa.
« Que voulez-vous ? Le mariage est la grande affaire des filles. Qu'elles soient heureuses ou malheureuses, on a toujours droit à des torrents de larmes. »
« Le mariage ? » releva le bachelier plus désemparé d'instant en instant.
« Naturellement, chevalier. Que voudriez-vous que nous fassions d'une merveille si charmante et si bien née que notre Héloïse ? Une nonne ? Une vieille fille ? Soyons sérieux.
Adressez-lui plutôt vos vœux de bonheur. Ma nièce chérie va épouser un assez beau parti. Je dois d'ailleurs avouer que je ne suis pas complètement étrangère à cet accomplissement. »
Le sire de Kéan, qui se croyait déjà au fond du gouffre, eut l'impression de basculer dans un nouvel abîme.
« Qui est donc ?» Il n'eut pas la force d'en bafouiller davantage.
« Qui est donc le fiancé ?» compléta la baronne en faisant mine de ne rien voir du trouble de son vis-à-vis.
« Eh bien, Héloïse, je crois que c'est à vous d'éclairer le chevalier. »
Pour toute réponse, la jeune fille enfouit son visage dans ses mains et fut secouée de gros sanglots.
« En voilà du drame, ma fille !» gourmanda la dame de Brégor. « Il faudra que vous appreniez à tenir vos nerfs mieux que cela. Après tout, vous aurez bientôt de grandes responsabilités. »
Elle glissa un sourire de connivence à Ivorin, comme pour excuser l'inconvenance dans la conduite de sa nièce.
« C'est que notre Héloïse sera bientôt dame douche, » précisa-t-elle d'un ton rempli de fierté.
Tout d'abord, cette révélation ne dit rien à Ivorin, comme si la baronne s'était soudain mise à parler dans une langue étrangère. De toute façon, Héloïse ne pouvait être dame Douchin, et la dame Douchin n'avait rien à voir avec la famille de Prangerin. La maison Douchin n'avait-elle point connu un sort tragique au cours de la dernière guerre entre Kimark et Bromel? Comment Héloïse pourrait-elle unir sa destinée à une lignée défunte? Et puis, avec un temps de retard, la vérité éclata dans la mahurie du bachelier. Il revit la joie grossière du butor qui, sous l'arbre aux écus, venait de promettre à Blancandin une danse avec sa jeune épousée. De scandale et de désespoir, les larmes lui montèrent aux yeux.
« Fitzganlon !» articula-t-il avec incrédulité.
« Quel méchant nom !» se récria la dame de Brégor. « Un jeune preux bien élevé ne devrait point s'abaisser à user de si vils sobriquets. » Sur sa balancelle, Héloïse sanglotait de plus belle. La petite Oudée vint s'asseoir à côté d'elle pour la prendre gentiment dans ses bras. Ivorin se détesta de ne pas avoir été capable d'en faire autant.
« Vous devez être contente, ma fille, » réprimanda la baronne. « Voici que vos émois ont bouleversé le chevalier. » Qu'avez-vous fait de vos bonnes manières ?
Erambourg de Brégor lissa sa robe des deux mains d'un geste contrarié. Puis, ayant poussé un léger soupir, parut en prendre son parti.
Il faudra apprendre à dissimuler mieux que cela, ma chère, poursuivit-elle. Comment voulez-vous que ce pauvre garçon vous fasse une cour dans les règles alors qu'on lit en vous à livre ouvert ?
Et comme le bachelier s'apprêtait à protester, elle le coupa d'une main autoritaire.
« N'insultez pas mon jugement, jeune homme, et parlons vrai. De toute manière, vous n'êtes pas assez aguerri pour jouer au plus fin avec moi. »
Adoptant une expression plus compatissante, elle ajouta. « Et ne me croyez pas plus dur que je ne le suis. Je n'aurai pas l'insensibilité de vous énumérer tous les avantages qu'Héloïse aura à épouser le fils naturel du duc. Je ne chercherai pas non plus à vous montrer que vos sentiments pour elle devrait vous convaincre qu'elle doit faire ce beau mariage. Car hormis votre cœur et votre bras, qu'avez-vous à lui offrir, mon pauvre ami?
Mais ce sont là des considérations bien basses sur lesquelles je ne m'attarderai point. Non, prenons plutôt de la hauteur et parlons de l'art d'aimer. J'ai sur ce sujet quelques lumières, pour avoir vécu jadis et pour avoir délibéré plus d'une fois dans les cours d'amour de la ci-devant duchesse. Si cruelle puisse-t-elle vous paraître, cette union est une chance pour vous deux. Jamais votre passion ne se dissoudra dans les intérêts de famille, ni dans l'ennui conjugal.
La haute position que va gagner ma nièce renforcera les charmes qu'elle possède à vos yeux. Votre tourment raffinera votre flamme et la portera à des sommets de dévotion et de désir. Et puis, tâchez d'y penser froidement. Quel meilleur choix que Domnall Douchin comme mari d'Éluise? Vous en serez jaloux pour de bonnes raisons et non pour de mauvaises. En lui concédant la main de votre belle, vous aurez la garantie d'en conserver le cœur.
Ivorin ne sut que répondre à cette tirade. Il se sentait confondu d'avoir été si aisément percé à jour. Il ne parvenait pas à démêler si la baronne cherchait à l'aider ou à l'écarter. Il ne pouvait concevoir comment un mal pouvait devenir un bien, mais à sa grande confusion, il réalisait qu'il commençait à chérir la violence de son désespoir.
« Bien !» conclut Erambourg sur un ton sans appel. « Je crois que la cause est entendue. Ce mariage est une bonne chose pour vous trois. Si nous en venions enfin au motif de votre visite, chevalier, dévoilez-nous donc là où vous avez péché. »
Une fois de plus, le bachelier resta bouche bée.
« Vous saviez donc ?» finit-il par balbutier. « La dame me soit témoin, je ne savais rien du tout, » rétorqua la baronne. « Mais j'ai des yeux pour voir. Eussiez-vous eu de bonnes nouvelles, vous seriez arrivé triomphant. Quand vous avez compris qu'Éluise était promise à un autre, vous seriez monté sur vos grands chevaux, et vous seriez parti bille en tête jeter le gant à votre rival. Au lieu de cela, mon pauvre ami, cette nouvelle vous a foudroyé. Vous êtes entré dans cette tente le cœur lourd, d'emblée trop accablé par la mésestime que vous vous portiez pour réagir en preux et cervelé. Sans vouloir vous offenser, je me félicite assez de cette sagesse chèrement acquise. J'avais craint que vous ne fissiez scandale. Mais cela signifie également que quelque chose a tourné court dans nos affaires. Ne croyez-vous pas qu'il est temps de m'en faire part ?
Ivorin se sentit proche de la sidération. La sagacité de la baronne le laissait désarmé avant même qu'il eût avoué son échec. Il ne réussit même pas à se réjouir de n'avoir point été la cause du chagrin d'Éluise, tant il se sentait désespéré par son prochain mariage. Pis encore, il mesurait douloureusement que l'annonce de sa défaite l'écarterait définitivement de toute prétention à la main de la belle. Dans cette tente fastueuse et un peu désordonnée, égayée par la rumeur festive du camp, qu'assourdissaient à peine les tapisseries et les voilages, il eut l'impression d'être cloué au pilori. Par politesse, puisque somme toute il ne lui restait que la courtoisie, il épargna à la dame de Brégor d'avoir à se répéter. Il prit sur lui. D'une voix blanche, il rapporta ses infortunes. Fort platement, et presque comme si ses déconvenues étaient arrivées à un autre, il évoqua sa défaite face au sire de Vaumacel et la clémence de ce dernier. Il expliqua ainsi sa présence au tournoi de Lindinas, dans l'espoir de racheter ses armes et son cheval grâce à ses gains. Avec une amère franchise, il confessa qu'il s'était porté garant de la présence d'Edan de Vaumacel dans le conroi de Blancandin sans escrègne, et révéla comment la défection du chevalier aux épines en avait fait l'homme du jeune prince rebelle, contre sa loyauté vassalique au père d'Éluise et au comte de Bellestance. La gorge serrée, il finit par se laisser tomber de son coffre et mit un genou à terre devant la baronne en balbutiant des excuses. La dame de Brégor se hâta de mettre un terme à cette scène embarrassante. « Que faites-vous » s'écria-t-elle. « Relevez-vous donc. On risquerait de se méprendre sur vos sentiments. » Une fois qu'Ivorin eut gauchement regagné son siège, la baronne s'éventa de la main comme si elle avait eu trop chaud. « Ne vous abaissez point ainsi !» conseilla-t-elle sans toutefois cacher son désappointement. « En vérité, je suis la première à blâmer dans cette affaire. Je ne savais que trop que Vaumacel, en plus d'être une fine lame, se montre aussi éloquent que perfide. J'aurais dû insister davantage pour vous détourner de cette entreprise. Mais que voulez-vous? En vous voyant si épris d'Éluise, j'ai cru que votre flamme vous inspirerait quelque exploit sur le pré. En l'occurrence, c'est moi qui ai été mal inspiré et vous qui en payez le prix. » J'en suis bien fâché. Mon pauvre ami, permettez-moi de vous aider à réparer ce qui peut l'être. bien qu'il pliât un peu sous le coup de griffe qu'enrobaient ses paroles conciliantes. Ivorin s'étonna que la dame ne donnât pas plus libre cours à son mécontentement ou à sa déception. Il lui fut reconnaissant pour cette indulgence, comme il l'avait été de la clémence des Danes. Dans l'état de confusion qui était le sien, il lui fallut quelque temps pour faire le parallèle entre ces deux mansuétudes. « Traitons les problèmes l'un après l'autre, » poursuivait diligemment la baronne. « Vous êtes prisonnier sur parole, et vous devez regagner vos armes et votre destrier. Ma foi, courir votre chance en tournoi est une bonne initiative, bien qu'elle ne vous offre aucune sûreté. Ce qui me paraît plus mal avisé, c'est de combattre contre votre propre camp. Si vous êtes pris, je doute que votre suzerain vous rachète. Et comme vous n'avez rien qui vous lie à ceux du dedans, ils ne vous aideront pas plus que le comte de Belestance ou mon frère le seigneur de Prangeray.
« Je n'en ai que trop conscience, » soupira le bachelier.
« La difficulté est assez simple à résoudre. Faites amende honorable et combattez avec ceux du dehors. » Le chevalier de Kéan sursauta, piqué au vif malgré son abattement.
« Mais ce serait manquer à ma parole !»
se récria-t-il.
« À qui manqueriez-vous ?
À un brutal qui malmène les dames, les déshonore et ne les défend point quand on les accuse de ses forfaits ? À un parjure qui, après avoir fui la justice ducale, se dérobe à ses engagements auprès du prince Blancandin et du comte de Quimarc ? Allons, chevalier, vous n'êtes tenu par rien à cet homme qui ne respecte rien.
Mais j'ai donné ma parole à monseigneur Blancandin.
Et c'était une belle étourderie pour vous parler à cœur ouvert. Considérez froidement votre situation. Vous voici lié à un jeune seigneur qui manque à tous ses devoirs. Il a rompu ses engagements religieux. Il entre en rébellion contre l'autorité paternelle. Il entraîne les sujets du duc dans une entreprise séditieuse. La parole que vous lui avez donnée ne vaut pas plus que celle accordée à vos macelles. Entendons-nous bien. Je ne vous encourage pas à vous parjurer, juste à prendre conscience que votre sujétion au vassaux du duc annule de fait une convention prise à la légère. Dans l'esprit ébranlé du jeune homme, ses propos accrurent la confusion. L'argument de la baronne lui parut d'une révoltante sagesse. Il en appelait aux vertus de loyauté et de droiture pour justifier une commode forfaiture. « Mais l'honneur » broncha-t-il malgré tout. « L'honneur est un trésor que l'on fait fructifier au service de son suzerain, et non contre lui, » rétorqua la baronne. « Cependant, j'entends bien vos réserves et je comprends que vous craigniez pour votre réputation. » Et Rambourg s'allongea à demi sur le flanc pour s'accouder aux coussins et aux oreillers dans une posture assez indolente. La tête posée sur une main, le majeur replié devant les lèvres et un index soutenant la tempe, elle scrutait cependant le chevalier de Kéan avec un œil perçant, comme si elle le jaugeait tout en pesant ses mots. « Je suis déjà bien fatigué par le voyage et par les sautes d'humeur de la petite duchesse, » se plaignit-elle. « Et voici que vous me soumettez vos cas de conscience. C'est bien parce que j'ai de l'amitié pour vous, et aussi parce que j'ai quelques remords de vous avoir entraîné dans ma querelle, que je vais m'ouvrir à vous en toute franchise. Oh, certes, je ne suis point un homme, et je me perds dans les subtilités du point d'honneur. » Mais j'ai mes entrées dans les hôtels du duc et de la duchesse. J'ai donc une idée, assez précise, de leurs intentions. C'est sur ces lumières que je vais fonder mon conseil. » D'un geste, elle ordonna à la petite oudée qu'on servît un encas et des rafraîchissements, et poursuivit sur sa lancée. Son Altesse ducale n'est pas venue à Lindinas pour jouter, mais pour se réconcilier avec les princes. Ce tournoi lui déplaît. Non seulement parce qu'il remet en question son mariage et son autorité, mais aussi parce qu'il distrait la noblesse de ses véritables obligations. Le duc laisse entendre qu'il pardonnera leur désobéissance au seigneur de Vert et à Blancandin, parce qu'il estime l'attachement qu'ils manifestent ainsi à leur mère. À cette fin, il tolérera l'adoubement du plus jeune et le combat de demain. En revanche, il voit d'un mauvais œil la grande mêlée du pas de l'immortel. Il craint les rançons,
les blessés, et peut-être les morts, qui affaibliront son host à la veille d'une campagne. C'est qu'il caresse l'ambition d'unir les forces de Bromel, de Kimark et de Brocmel dans une guerre contre l'Ouromagne. Il tient de plusieurs sources qu'il existe de grands troubles chez ces sauvages. C'est une occasion qu'il ne veut laisser passer pour rien au monde de mettre le pied sur la rive gauche de la Claye. Tandis que des serviteurs présentaient coupes et aiguères, la baronne pointa Ivorin de la main. Au milieu de ces grands enjeux, viennent se loger vos petits dilemmes, chevalier. Comprenez que même s'il souffrira les festivités de demain, Monseigneur Ganelon se défiera à l'avenir des preux qui auront épousé la cause des fils rebelles. Au nom de l'honneur, mon ami, vous vous serez fermé tous les honneurs. Cela étant, je comprends fort bien que vous éprouviez des réticences à vous dédire publiquement. La faveur du duc pourrait vous coûter celle de la cour. Eh bien, envisageons un moyen terme pour vous sortir de cette impasse. Vous êtes dans une situation si délicate que vous y laisserez de toute façon quelques plumes. Ce qu'il vous faut, c'est une porte de sortie honorable. Voici mon mot. Puisque vous craignez de passer pour parjure, rangez-vous demain dans le conroi de Méléagant et de Blancandin. Mais pour ne pas déplaire au duc, combattez au pis et favorisez ainsi la soumission des princes. Vous serez pris, certes, mais j'aurai glissé à l'oreille de son Altesse la nouvelle de votre ralliement secret. Afin de vous manifester sa reconnaissance, le duc vous rachètera. De la sorte, au prix d'une défaite sur le pré, vous aurez sauvé l'honneur dans les deux camps. Mieux encore, vous aurez rejoint votre vassalage naturel. Et au lieu d'être l'homme d'un prince sans fortune, vous le serez du suzerain de toutes ces terres. Le bachelier se sentait plus désorienté que jamais. Il éprouva pour Erambourg de Brégor un élan de reconnaissance. Loin de l'avoir accablé, la baronne cherchait à le tirer d'embarras. La vertu du jeune preux regimbait certes à se plier à un procédé aussi tortueux, mais force lui était de reconnaître qu'on lui offrait une échappatoire à même de prolonger sa carrière dans les armes. Il avait également à l'esprit l'aveu que venait de faire Blancandin sous l'arbre aux écus. Méléagant ayant fait défection pour une raison secrète, le conroi du Damoiseau ne serait composé que de 8 chevaliers. Dans ces conditions, les chances de se refaire étaient minces, les risques d'être pris considérables. Perdu pour perdu, ne valait-il pas mieux de l'être de façon profitable? Le soulagement que lui apportait cette issue lui faisait infiniment horreur. Mais qui le saurait? À part le duc, la baronne et Héloïse. Cette idée le remua jusqu'au fond de son être. Il embrassa d'un coup d'œil malheureux la belle promise à un autre. Vivante image du désespoir, la sublime Héloïse restait la tête entre les mains, mais il lui sembla qu'elle le scrutait entre ses doigts entrouverts. Il saisit alors, avec quelle douleur, l'une des implications de la ruse de la baronne. Combattre au pis le lendemain, ce serait offrir la victoire au grand bâtard. Ce serait livrer la dame de ses pensées à l'odieux rival. Le cœur faillit lui manquer, tandis que le sang se retirait de son visage. « Je ne peux pas, » murmura-t-il. Héloïse écarta légèrement les mains, comme pour lui dévoiler son trouble. « Je vous accorde que dans l'état qui est le vôtre, vous ne pourrez pas grand-chose, » observa impitoyablement la baronne. « Dans ces conditions, est-il utile de vous tourmenter avec un débat sans objet ?» « Ce ne serait point agir en chevalier, » protesta faiblement Ivorin. « Mais votre désarroi saute aux yeux, mon pauvre ami. Aurez-vous seulement la fermeté nécessaire pour tenir une lance en arrêt? C'est comme si vous étiez déjà pris. Considérant les choses sous cet angle, je suis bien importune de vous proposer cet expédient qui vous déplaît. A-t-on besoin d'une autorisation pour faire une bonne action? Demain, quand vous aurez rendu les armes, J'irai de mon propre chef glisser un mot en votre faveur à Madame la Duchesse. Ainsi, vous aurez votre conscience pour vous, et vous y gagnerez malgré tout l'amitié du duc. D'ailleurs, oubliez ce que je viens de vous dire. Nous ne nous en porterons tous que mieux. »
L'assurance qu'Hérambourg de Brégor avait de sa future défaite fut comme une estocade pour Ivorin. La baronne lui paraissait si pénétrante et lui-même se sentait si mortifié qu'il fut persuadé qu'elle voyait juste. Non seulement il lui faudrait essuyer l'humiliation de la capture, mais il devrait aussi se résoudre à n'être plus qu'un jouet entre les mains de cette grande dame. Celle-ci donnait d'ailleurs l'impression d'avoir pesé son sort et clos le chapitre.
« Que ces discussions sérieuses sont horripilantes !»
se plaignit-elle d'un air badin.
« Entre la chevauchée, le bruit, les humeurs de la duchesse et vos scrupules, chevalier, j'ai la tête qui tourne. Naguère, je vous ai connu plus amusant. Et si nous nous changions les idées ?»
Se tournant vers Héloïse, elle s'enquit.
« Quel est donc ce livre que vous faites semblant de lire, ma chère enfant ?»
La jeune fille se tamponna les yeux et tâcha de reprendre contenance.
« C'est un chansonnier, ma tante, »
répondit-elle d'une voix dolente.
« Ce sont les ballades du cœur Marie, de Prudence de Mondoir. »
La baronne pinça les lèvres de façon désapprobatrice.
« Douce dame !» s'écria-t-elle. « Après cela, étonnez-vous d'avoir l'âme mélancolique. Vous entretenez votre tristesse avec pareille littérature, sans compter qu'il n'est pas très avisé de lire ce livre-là à la cour du duc. Dépêchez-vous de le ranger, et allez plutôt chercher mon bel églantier. Vous nous en lirez une aventure afin de nous distraire. Moi, j'ai la gorge sèche d'avoir tant parlé. »
Héloïse se leva avec une lenteur languissante, serrant contre son cœur la poésie élégiaque de Prudence de Mondoir.
« Tenez, »
poursuivait la baronne comme saisie par une inspiration, « vous nous lirez l'aventure de la lavandière de nuit.
Cela vous rappellera qu'il peut nous arriver, à nous autres femmes, des malheurs bien pires qu'un beau mariage. »
La demoiselle de Prangeray se mit en devoir de chercher le roman, mais elle était si lasse, et il régnait un tel désordre dans les coffres, qu'elle tardait à le retrouver. Prise d'impatience, la baronne envoya la petite Oudée à son aide. Ivorin était au supplice de voir la sublime Héloïse aussi affligée. Il se sentait partagé entre l'urgence de fuir leur détresse réciproque et le désir de rester pour s'enivrer aussi longtemps que possible de sa présence. Il balançait une fesse sur son siège, l'autre prête à se lever, tandis que la belle s'affairait de plus en plus lentement, soumise au bavardage léger qu'essayait d'entretenir sa jeune compagne. Quand le chevalier de Caen finit par comprendre que la requête de la dame de Brégor serait au-dessus des forces d'Héloïse, il craignit de devenir importun. Il demanda son congé de façon si brusque que la baronne haussa un sourcil réprobateur. Puis il s'inclina roidement devant l'objet de sa passion, qui, tout à ses vaines recherches, lui tournait le dos à demi.
« Madame, » balbutia-t-il, « je serai toujours... »
La gorge nouée, il tourna les talons et prit la fuite.
Il était si éperdu qu'il faillit en oublier son cheval. Il lui fallut revenir sur ses pas pour le récupérer. Tirant l'animal par les rênes, il marcha sans but. Une petite ondée printanière dégagea les allées du camp devant ses pas, poussant la foule à se réfugier sous les auvents de toile et les tentes. L'averse refroidissait Ivorin avec la tristesse des larmes. Au bout d'un moment, il se rendit compte qu'il avait tourné en rond et risquait d'échouer dans les quartiers du seigneur de Prangeray ou du comte de Bellestance. Ses hauts hommes se montreraient probablement moins arrangeants que la baronne de Brégor et lui demanderaient des comptes sur son changement d'allégeance. Quoique son sort ne lui importât plus guère, il se dit qu'il fallait quand même mettre les formes à son naufrage. Mieux valait être pris ou tué le lendemain sur le pré que sottement capturé la veille des combats. La tête basse, il prit la direction de la barrière pour quitter le camp du dehors. Il était presque sorti lorsqu'il entendit un bruit de course derrière lui. « Chevalier, chevalier de Caen !» appelait une voix fraîche. En se retournant, il vit la petite Oudée, rouge, trempée et essoufflée, qui soulevait sa robe d'une main pour trotter à sa poursuite.
« Ah, chevalier !» s'écria-t-elle. « J'ai bien cru que je ne réussirais pas à vous rattraper. J'ai un message pour vous. »
Rieuse et un peu décoiffée, la demoiselle de compagnie se rapprocha d'Ivorin à le toucher, comme si elle allait l'embrasser. Dressée sur la pointe des pieds, elle lui chuchota quelques mots à l'oreille.
« On m'a dit de vous dire d'être vaillant. Demain, combattez selon votre cœur. »
En même temps, elle lui fourrait quelque chose de soyeux dans la main. Aussitôt, dans une envolée de jupe, la petite Oudée reprit son envol et s'échappa vers l'intérieur du camp. Un peu interdit, Ivorin la regarda disparaître entre les tentes. Puis il déplia lentement l'étoffe qu'on lui avait laissée. C'était une pièce de gaze chatoyante et extraordinairement douce au toucher. Le bachelier cligna les yeux, incrédule. Il tenait le gorget des Louises. Alors, tout à coup, sa poitrine se gonfla d'allégresse et sa tête devint légère. Plus rien n'avait d'importance sinon ce carré d'étoffe entre ses doigts qui avait caressé la gorge de sa belle. Il se mit à danser comme un fou, seul sous la pluie, sous l'œil perplexe de son cheval. Autour de lui, le monde avait repris ses plus riches couleurs. Il se sentit une force à défier toute la chevalerie du duché.